Eh bien, chers amis, je vous remercie de votre patience. Il y a encore dans les couloirs quelques personnes qui vont apparaître après avoir déposé leurs effets dans leur chambre. Et je crois que nous allons pouvoir commencer. J'ai l'habitude de dire qu'étant fils d'horloger, on m'a appris la ponctualité, mais je comprendrai bien que dans une première rencontre, il puisse y avoir un peu de battement. Quand on vient de Suisse, nous avons un canton, le canton de Vaud, où l'on parle toujours du quart d'heure vaudois, hein, parce que les Vaudois sont toujours un quart d'heure en retard. Mais on dit que c'est pour que les Bernois puissent les suivre dans notre pays. Alors, je vous souhaite à tous la plus cordiale bienvenue dans le Seigneur. Et je me suis tenu devant Dieu pour implorer sa grâce et sa miséricorde sur les moments que nous allons passer ensemble. Dans cette retraite du mois d'octobre 1989. Dans ce manoir dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux de pouvoir commencer cette retraite en invoquant ta présence au milieu de nous. Et tu nous le dis clairement par la bouche de ton Fils, que là où deux ou trois s'assemblent en son nom, tu es là au milieu d'eux. Et nous croyons à ta présence réelle et à la bénédiction que tu veux donner à chacune de nos âmes selon les besoins que tu nous connais. En Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, ceux et celles qui ont déjà participé aux retraites Mahanaïm dans ce lieu savent que nous ouvrons toujours nos rencontres par un texte biblique. Et ce texte, je puis en témoigner, nous le recevons en nous tenant devant Dieu, qui seul connaît à l'avance les besoins personnels et précis de tous les participants. Depuis l'appel que j'ai reçu du Seigneur en 1936 à lui consacrer ma vie, voyez-vous, j'ai de plus en plus le sentiment de mon insuffisance pour apporter la parole de Dieu comme on le doit faire auprès d'âmes que nous estimons infiniment précieuses aux yeux du Seigneur. L'apôtre Paul lui-même, et c'était l'apôtre Paul, s'écrit dans une de ses épîtres, « Mais qui est suffisant pour ces choses ?» Comment est-il possible que je vienne vous parler au nom de Dieu et que j'ai quelque chose de valable à vous communiquer? Les premiers jours de mon appel en 1936, je disais au Seigneur, je ne sais pas parler. Je ne suis encore qu'un enfant. Et après tant d'années, il y a de la place, entrez seulement, soyez les bienvenus. Après tant d'années, j'ai encore le sentiment de n'être qu'un enfant et d'avoir tout à apprendre et à réapprendre. Alors c'est très humblement que je suis
avec vous pour écouter ce que Dieu aura à nous dire dans ces journées. Et je dirais encore que je comprends tellement Moïse qu'il y a un certain moment de son existence, quand il se sentait prêt et parti à l'action pour délivrer son peuple, et il pensait que ce peuple allait comprendre que Dieu l'avait vraiment choisi pour cette délivrance. Et puis ce fut l'échec. Au moment où il se sentait sûr de lui, bien préparé, sorti de ses écoles égyptiennes, ayant tous ses diplômes, c'était l'échec total. Et Moïse, qui devait être le libérateur du peuple, dut s'enfuir, s'exiler, parce qu'il n'était au fond, aux yeux de la loi, que meurtrier. Avec les meilleurs sentiments pour son peuple, il en était arrivé à tuer. Et alors, quand 40 ans après cette expérience, Dieu lui est apparu. Derrière le désert, à la montagne d'Horeb, alors qu'il gardait les troupeaux de son beau-père, et Dieu lui dit « Moïse, Moïse !» Et il le consacre. Et il lui montre que le moment est venu, que c'est lui qui est vraiment choisi pour aller parler au Pharaon. Que dit-il ? Tu ne veux pas partir. Et il arrive à dire à Dieu « Envoie qui tu voudras, mais pas moi. » Bien, vous savez, c'est souvent le sentiment que j'ai avant une mission qui m'est demandée. Seigneur, tu ne pourrais pas envoyer quelqu'un d'autre à ma place. Ça m'est arrivé pour le Vietnam, pour le Cambodge, quand vous recevez un télégramme que vous devez être à telle heure, à tel endroit, et que c'est difficile, et que vous ne vous sentez nullement en forme. C'est pourquoi je l'ai dit souvent, et vous allez dire que je deviens sclérosé. Je n'aime pas tellement quand on me demande si je suis en forme au début d'une rencontre. Parce que, voyez-vous, je me souviens que mon Sauveur, mon Seigneur, c'est quand il était sans forme ni éclat qu'il m'a sauvé. Quand il pendait sur le bois de la croix, sans forme. Alors, ce qui compte, vraiment, c'est d'être dans la main de Dieu pour le servir. Moïse a eu ce sentiment, non, je ne suis pas capable. Puis, je pense aussi au prophète Élie, pour bien vous montrer que tous ceux qui ont été conscients de leur responsabilité quand ils devaient parler aux âmes, bien, ils ont eu leur moment de faiblesse. Élie, quand il s'est assis sous un genêt dans le désert, il disait, mais c'en est trop, Seigneur. Maintenant, Éternel, reprends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'était Élie qui disait cela, le grand prophète de l'Éternel, qui avait pu faire descendre le feu du ciel pour consommer l'Holocauste, et qui avait égorgé 400 prophètes de Baal, ces idoles affreuses, dont Jézabel entretenait les serviteurs. Puis aussi, comme Jérémie, j'ai parfois cette pensée, et je l'exprime comme lui l'exprimait, je me permets de vous la lire, pour que vous voyez bien dans quelle ligne nous sommes. Jérémie dit au verset 7 du chapitre 20 de son livre, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en ton nom, il y a dans mon cœur un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, je ne le puis. Et c'est plus fort que lui, il continue de prêcher. Eh bien, c'est un petit peu l'expérience que nous faisons quotidiennement. Alors j'éprouve, ayant ces sentiments, combien c'est une grâce de la part du Seigneur qu'il veuille bien encore m'employer pour le servir. Mais je suis un peu aussi comme Ésaïe, qui a soudainement la vision de la gloire et de la sainteté du Seigneur, et qui s'écrie lui-même, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Vous connaissez ce merveilleux chapitre 6 du prophète Ésaïe, qui est celui vraiment de sa vocation. Si vous lisez le chapitre 5 d'Ésaïe, vous verrez qu'Ésaïe a prononcé 6 malheurs sur les autres. Malheur, malheur, malheur. Il a dénoncé tout le mal qui se faisait sur la terre. Comme ce serait facile aussi de le faire aujourd'hui, hein, parce que le mal règne sur la terre. Alors il a prononcé les 6 malheurs. Mais dans le chapitre 6, il en prononce un nouveau de malheur. Mais malheur à qui ? À moi. Malheur à moi, je suis perdu. Devant celui qui veut bien nous employer, nous nous sentons petit, rien, misérable, oui, vraiment, perdu. Mais quand nous faisons cette confession, que nous sommes des gens aux lèvres impures, que nous avons plusieurs manquements, eh bien, le Seigneur intervient, et comme il l'a fait pour Ésaïe, il nous rappelle le fait divin de la croix par lequel notre faute a été enlevé et notre péché expié. Quand on avait vraiment le sentiment de sa misère, le Seigneur nous fait miséricorde. Et je voudrais que vous puissiez entrer dans cette retraite, quel que soit votre état, vos sentiments, avec cette certitude. Si vous vous sentez misérable, moi aussi je me sens misérable. Je ne suis pas mieux. Mais je connais la miséricorde de Dieu. Et il ne résiste qu'aux orgueilleux, qu'à ceux qui pensent que tout va bien dans leur vie, qu'il n'y a rien à changer, qu'ils sont arrivés. L'apôtre Paul, lui, n'a jamais prétendu qu'il était arrivé. Il disait qu'il courait dans la course, qu'il n'avait pas encore obtenu le prix, mais qu'il cherchait à le saisir. Et c'est pourquoi alors, comme Ésaïe, après avoir fait sa confession et après s'être laissé purifier par le Seigneur, Ésaïe entend cette voix, « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Bon, je pense toujours, je m'en vais cesser ces retraites, ma Anaïm, ma Châteauguay. Mais quand même, quand je vois les besoins, quand je vois les âmes qui sont rassemblées là, qui viennent de tous les milieux, pas parce qu'on fait une grande propagande, nous n'avons pas de propagande, ça se dit de bouche à oreille. Alors je me dis, bien, qui continuera ? Mais tant que je suis en vie, si je peux servir, je veux le faire. La première fois que je suis venu dans cette maison, c'était en 1970, dans ce moment de grand trouble au Québec. Et j'y étais béni. Et j'ai eu des contacts extraordinaires qui m'ont ouvert beaucoup de portes, qui m'ont permis de travailler dans ce Québec que j'aime, où il y a tant d'âmes, et où vraiment, on est empoigné quand on lit encore aujourd'hui que dans le monde entier, le pays où il y a le plus de suicides de jeunes qui n'ont pas 20 ans, c'est quel pays? C'est le Québec. Alors vous vous posez des questions quand même. Comment se fait-il qu'au Québec, tous ces jeunes en arrivent à vouloir se supprimer pour faire quoi? Une nouvelle expérience? Ils ont tout connu avant le temps. Ayant tout connu et mal connu, qu'est-ce qu'ils voudraient? Il n'y a plus que la mort, la grande inconnue, qui pourrait leur révéler quelque chose. Alors ils veulent savoir ce qu'il y a de l'autre côté. S'il y a quelque chose, et il saute la vie, ça me brise. Alors je me dis, tant que j'aurai un souffle en moi, je continuerai si le Seigneur veut bien de moi. Alors je suis venu à vous ce soir avec cette parole que vous voyez écrite derrière mon dos. Quand je me suis tenu au pied du Seigneur en demandant, mais tu vois, chaque fois au début d'une retraite, j'essaye de donner une parole qui résume en quelque sorte déjà toute la retraite, tout le sujet. Et cette parole qui m'a été donnée est celle-ci. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et pour ne pas isoler ce texte de son contexte, je vous lis les versets qui l'entourent dans le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19e. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent des robes. Les journaux nous le disent assez. Hein. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point. Ça serait quand même bien de connaître ce pays-là. Alors que notre terre est tellement polluée, alors qu'on se plaint de cet environnement, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21, et c'est ce verset que je vous laisse, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Eh bien, que cette parole s'inscrive dans votre mémoire et que le Saint-Esprit, dans les jours qui vont venir, vous la rappelle et que vous laissiez aussi votre conscience être questionnée au fond, où est mon trésor? Où est mon cœur, mes affections, que sont-elles, mes désirs? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors en vous accueillant ce soir au nom du Seigneur, je vous souhaite à tous de vivre vraiment dans cette retraite le sujet du deuxième volet de notre grand thème pour 1989, les faits divins et nos sentiments. Et ce deuxième volet, nous l'avons intitulé « Caché avec le Christ en Dieu », en nous inspirant d'un verset de l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 3. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Caché avec le Christ en Dieu, vous devez déjà deviner un peu ce que nous allons découvrir. Qui peut être notre trésor? Où est ce trésor? Où peut être notre cœur? Je vous avoue avoir eu un moment d'anxiété très grand devant le Seigneur en pensant qu'en cette fin de semaine d'octobre, une vingtaine de personnes seulement avait assisté au développement du premier volet qu'on a couvert au mois de février et où je traitais ce sujet, mort et ressuscité avec le Christ. Et je m'aperçois que plus de 70 personnes venues aujourd'hui n'ont pas entendu les exposés du premier volet. Certes, ils ont été enregistrés et vous pouvez encore les obtenir si vous en désirez les cassettes en vous adressant à notre frère Josaphat. Mais si les rencontres Mahanaïm ici devaient continuer, je dirais simplement que je prendrai un thème unique et complet pour chaque fin de semaine, comme c'était le cas dans les débuts de nos retraites. C'est à partir de 1987 que nous avons commencé des thèmes à trois volets. Par exemple, nous avons eu en 87 un message trinitaire. Et le premier volet, au mois de février, c'était le Père de gloire. Et nous avons étudié l'Épître aux Éphésiens. Puis en automne, le Seigneur de gloire, c'était le Fils, hein, et nous avons étudié la première épître aux Corinthiens. Puis, le mois suivant, l'Esprit de gloire, qui nous conduisait à l'étude de la première épître de Pierre. Ainsi, on avançait dans la connaissance de la parole de Dieu. Et ceux qui avaient été intéressés au premier volet, venait au second, etc. En 1988, nous avons pris encore un thème à trois volets, les caractères d'un vrai réveil spirituel. Et alors, au lieu d'être dans le Nouveau Testament, nous nous sommes plongés vraiment dans l'Ancien Testament, avec comme premier volet l'autel sur ses bases. Quand il y a un vrai réveil, on replace l'autel, c'est-à-dire la croix à sa vraie place. Ensuite, la maison sur son fondement, c'était le deuxième volet. Et troisièmement, les murailles sur le remplacement. Hein. Les murailles, c'est ce qui protège et aussi c'est ce qui sépare. Mais ça ne doit pas nous séparer de nos frères. Ça doit nous protéger du monde et du mal. Et nous avons été bénis, je crois, par ces messages où nous avons étudié le livre d'Esdras, le livre de Néhémie et quelques petits prophètes. Alors pour 89, nous avons cru bien faire en choisissant ce thème « Les faits divins et nos sentiments » en le divisant aussi en trois sujets,
qui était le premier mort et ressuscité avec Christ, c'était en février, puis alors celui que nous allons traiter à partir de demain matin, caché dans le Christ en Dieu, et nous terminerons par plus que vainqueur, par celui qui nous a aimés. Ce sera pour le mois de novembre, notre dernière session ici au manoir Diouville. Alors disons simplement qu'après avoir expliqué ce qu'est un fait, c'est-à-dire un événement certain, une chose bien établie, indiscutable, prouvée, revêtue d'une autorité divine, quelque chose qu'on n'a pas fabriqué nous-mêmes, nous avons souligné qu'en revanche, un sentiment correspondait davantage à ce que nous ressentons, à ce que nous éprouvons en nous-mêmes, à ce que nous expérimentons, à nos émotions, à notre état d'âme, à notre vie psychique. Alors, un fait, je vous le rappelle, c'est quelque chose qui s'est passé en dehors de nous. Il y a encore de la place devant. Un fait, c'est quelque chose qui s'est passé en dehors de nous et qui ne dépend pas de ce que nous sommes. Un fait, c'est quelque chose d'objectif. Tandis qu'un sentiment peut être quelque chose de très subjectif. Et dans les Écritures, qui restent notre seule source, il est question de faits divins, qui ne sont pas des simples opinions humaines, basées sur notre expérience, mais des faits indiscutables. Et je demande au Seigneur que son esprit nous donne cette révélation et cette conviction qu'il existe des faits qui ne se discutent pas et sur lesquels on n'a pas à revenir, quels que soient nos sentiments. Alors, de quelle manière tel fait agit sur vous, quand vous y croyez, c'est une toute autre question. Et il devient alors une affaire de sentiments et d'expérience. Qu'est-ce que les faits divins vous procurent? Ce que je voudrais souligner encore, c'est que les faits divins que nous révèle la parole ne dépendent pas de notre expérience. Les faits divins auxquels nous croyons par la foi ne dépendent pas de notre expérience. L'expérience, elle est produite par la foi, qui s'empare du fait, qui croit ce que Dieu dit, parce que ces paroles, nous croyons qu'elles sortent de la bouche de Dieu. Nous avons ça dans le Deutéronome au chapitre 8, verset 3. Et c'est ainsi que j'ai vu, lorsqu'il parlait à Satan, au jour de la tentation, attribuait à Dieu ce qu'il lui répondait par les Écritures. Vous savez comment Satan a osé s'attaquer à Jésus. Qu'a fait Jésus? Il lui a répondu, il est écrit. Il est écrit. Alors, nous n'avons pas à suivre un autre exemple que Jésus. Vous ne pouvez pas empêcher Satan de vous tenter. Vous ne pouvez pas empêcher Satan de mettre le doute, le trouble dans vos cœurs. Qu'est-ce que Satan essayait de faire avec Jésus? De lui mettre un doute au sujet de sa divinité. Il avait faim, il était depuis 40 jours dans le jardin. Si tu es le Fils de Dieu, montre ta puissance. Commande à ces pierres pour qu'elles deviennent du pain. Mais Jésus ne voulait pas se servir de sa puissance pour se satisfaire lui-même. Il nous a montré qu'il était l'homme en tant qu'homme sur la terre, pleinement dépendant de Dieu, et qui saurait attendre l'intervention de Dieu. Nous ne savons pas attendre. Si nous avions quelque puissance, nous en userions pourquoi? D'abord, pour exterminer tous nos ennemis. Heureusement que nous n'avons pas cette puissance. Trois fois le Seigneur a répondu, il est écrit. Donc, Jésus a revêtu les Écritures de son autorité, c'est pourquoi nous allons pouvoir, dans cette retraite, nous baser sur les Écritures. Parce qu'en nous basant sur les Écritures, nous croyons la parole de Jésus, qui nous a montré que les Écritures étaient la parole de Dieu. Alors, dans notre premier volet, au mois de février, avant même de considérer ce thème mort et ressuscité en Jésus-Christ, nous avons cru devoir nous poser quelques questions et chercher les réponses et les définitions des Écritures. Je vous dis ceci simplement pour que ceux qui n'étaient pas là puissent relier les messages qu'ils vont entendre à ce qui a déjà été posé. Alors, je voudrais vous poser, à vous, quelques questions. Avons-nous une révélation de la part de Dieu? Croyons-nous que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que c'est un fait pour nous? Ou bien est-ce que c'est une opinion? Est-ce que vous croyez que ce qui est écrit dans ce livre est la parole de Dieu? D'un Dieu qui ne peut ni se tromper, comme vous l'avez appris au catéchisme, ni vous tromper, hein? C'est vrai. Un Dieu qui ne peut ni se tromper, ni vous tromper. Et ce livre est sa parole. C'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est un fait? Vous savez, si vous avez compris que c'est un fait, ça peut changer votre existence. Une fois qu'on croit la parole de Dieu, ah mes amis, ça ne reste pas dans les couvertures du livre. Ça s'imprègne, ça s'inscrit dans notre chair mortelle. Et c'est une parole vivante et opérante, plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants qui atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. C'est une parole qui ne nous laisse pas intacts, mais qui nous transforme, qui nous donne une certaine manière de vivre dans ce monde, qui n'est pas la manière du monde. C'est un autre mode de vie. Alors évidemment, vous allez peut-être, une fois que vous croyez cette parole, vous sentir un peu étranger dans votre propre milieu. C'est tout à fait naturel. Jésus, quand il était sur la terre, il se sentait étranger, et pourtant, il avait revêtu un corps de chair, il était réellement un homme. Il a eu sa naissance, il a eu un jour, il a eu 8 jours quand on l'a circoncis, il a eu ses 40 jours quand on l'a présenté au temple. Il y avait une croissance naturelle en lui, puis on le voit ensuite à l'âge de 12 ans, quand il fait sa première visite à Jérusalem, et quand il commence son ministère, il a dit qu'il avait environ 30 ans. Il a été donc un homme. Mais au milieu de ses disciples, alors qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, il a eu des moments terribles quand je l'entends dire « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je ?» Les disciples qui étaient autour de lui, ses élèves qui l'enseignaient, c'était des têtes dures. Et vous savez, peut-être que nous aussi, nous sommes des têtes dures. Après 2000 ans de christianisme, qu'est-ce qu'il reste? On nous parle déjà d'une nouvelle ère post-chrétienne. C'est déjà passé le christianisme. Maintenant, on va vers une nouvelle ère, vers un nouvel âge. Hitler le croyait déjà en son temps. Il n'est plus. Une deuxième question. Notre foi nous permet-elle d'admettre que le monde a été formé par la parole de Dieu de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent, de choses visibles, comme il est dit dans Hébreux 11, verset 3. Est-ce que c'est un fait pour nous? Est-ce que vous croyez que le monde a eu un créateur? Que c'est Dieu qui est le créateur? Que ce n'est pas la matière simplement qui a évolué? Et alors l'histoire de la création et de la chute, est-ce que ce sont des faits ou de simples hypothèses? À quoi en êtes-vous sur ces questions-là? Est-ce que pour vous, la chute est-elle un fait? Ou est-ce que c'est une hypothèse qui expliquerait certaines choses? Vous savez, je crois qu'on a besoin de voir les choses en face. Quant au péché, surtout au Québec, on nous a dit, et on me l'a dit au début, et même dans cette salle, je l'ai entendu, ne parlez pas de péché au Québec. On nous a culpabilisés. J'entends encore un docteur en théologie qui disait, moi je me souviens du triangle qui était au-dessus de la machine à coudre de ma mère. Ce triangle, on disait, tu vois, Dieu te voit partout. Puis c'était le bâton. C'était le Dieu Père Fouettard qui allait nous punir. Alors, on nous a culpabilisés. Alors, ne nous parlez plus du péché. Mais j'ai entendu, oui. Et de théologiens. Alors, est-ce que nous nous illusionnons? Est-ce que le péché existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Est-ce que c'est un fait? Oui, on peut le nier. Puis la chair, c'est les sujets que nous avons étudiés dans notre précédente rencontre. La chair, est-ce que c'est un fait que la chair est faible? Qu'est-ce que c'est que la chair? On a essayé de nous pencher sur ce problème. Qu'est-ce que c'est que la chair? Est-ce que vous êtes des gens de chair? Est-ce que vous êtes nés de la chair? Alors qu'est-ce que Jésus disait? Ce qui est né de la chair est chair. Hein? Et lui-même a dit, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un fait que la chair est faible? Oh, j'ai de bonnes pensées, je veux faire de grandes choses. Puis voilà. J'en ai pas la force. Et je transgresse. La loi est-elle un fait? Est-ce qu'il y a une loi? Cette loi de Moïse, qui est quand même à la base de presque toutes les civilisations. Est-ce que c'est un fait? On vous a appris les 10 commandements. le monde, est-ce que c'est un fait? Est-ce qu'il y a le monde? Et qu'est-ce que le monde? Puis alors, la mort. C'est un fait, la mort? Est-ce que c'est vrai qu'un jour on doit mourir? Qu'il n'y a pas d'espérance pour nous de demeurer toujours ici-bas? Même l'incrédule, même l'incroyant est obligé d'admettre cela. J'entends toujours cet homme qui nous disait, un grand savant, quand la vieillesse arrive, et qu'inéluctablement la pensée de la mort s'installe dans nos cœurs, on se met à espérer que ceux qui croient en la vie éternelle aient raison. Oui, ils avouent cela. Oui, c'est un fait, la mort. Maintenant, un dernier point, Satan. Le diable. Est-ce que c'est un fait? Est-ce qu'il existe? Est-ce que Satan et les démons existent? Un grand théologien allemand a écrit un livre que j'ai lu, Liquidation du diable. C'est liquidé, hein? Ça, c'était de l'infantilisme. Comme le diable doit rigoler. Comme c'est formidable que les théologiens viennent encore à mon aide pour nier mon existence. Eh bien, ce que nous avons vu, c'est que ce Dieu qui est notre Créateur est devenu le Dieu Rédempteur et au moyen de quelques schémas, nous avons essayé de faire mieux saisir le grand plan rédempteur de Dieu selon Romains 8, verset 28. Et comment notre salut se trouvait dans notre identification au Christ dans sa mort et dans sa résurrection. C'est pourquoi notre premier exposé était centré sur ce sujet. Mort et ressuscité avec Christ. Alors il ne s'agit pas de sentir que nous sommes morts et ressuscités avec Christ, mais de le croire et de vivre quotidiennement cette mort par la puissance du Saint-Esprit, qui nous a régénérés par la vivante et permanente parole de Dieu. Vous savez, quand on est mort, est-ce qu'on pêche encore? Est-ce que le péché a de la puissance sur un mort? Sur un vivant, oui. Mais sur un mort? Ah oui, ben alors, pour que je ne pêche pas, il faudrait que je sois mort. Ah oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas le droit de me suicider. Mais Jésus est venu pour que dans sa mort, nous puissions mourir. Et que nous en ayons fini avec notre vie passée, afin que dans sa résurrection, nous puissions vivre d'une vie entièrement nouvelle, et qui pourra triompher de tous ces faits que je vous ai énumérés et qui restent là, qui sont là, qu'on ne veut pas nier, mais il y a pourtant une délivrance. C'était donc le sujet de notre précédente retraite. Alors, à ceux et celles qui ont vécu cette retraite en février, et qui avouent, peut-être aujourd'hui, que depuis, ils sont encore troublés, et qu'ils n'ont pas réalisé les victoires qu'ils espéraient connaître et expérimentée. Qu'est-ce que je peux leur dire? Il y a une vingtaine de personnes qui ont assisté, qui ont participé à cette retraite. Je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de vous parler, quelles ont été vos expériences dans les mois qui nous séparent de février. Mais peut-être que vous étiez parti de cette retraite en vous disant, mais maintenant j'ai compris, maintenant je vais faire de nouvelles expériences et j'aurai la victoire. Et puis, vous avez peut-être eu des chutes encore. Vous êtes découragé. Eh bien, je voudrais vous encourager ce soir. En vous disant que ceux qui sont morts dans leurs fautes et dans leurs péchés, ceux qui ne sont pas vraiment au Seigneur, qui vivent sans Dieu dans le monde, ils n'éprouvent jamais les angoisses que vous avez eues ces derniers mois. Comprenez-vous? Si vous avez fait certaines expériences décevantes, si vous avez même été encore angoissé, eh bien, je voudrais vous rassurer. C'est un bon signe. Mais vous allez me dire, mais on espérait autre chose, justement. On espérait avoir cette paix, on espérait avoir cette joie, être rempli de certitude. Voyez-vous, il n'y a que les gens qui sont vraiment convertis qui peuvent avoir ce désir de progresser, ce désir que ça change dans leur vie. Est-ce qu'il y en a encore ici qui ont le désir que quelque chose change dans leur vie? Maintenant, il y a tous les espoirs permis. Ne vous découragez pas. Ce que vous avez expérimenté dans les mois précédents, c'est que l'enseignement que nous avons essayé de vous donner était vrai. Hein? Parce que si vous êtes parti simplement avec des doctrines, des théories bien bibliques, que le péché est une réalité, ainsi que la... blesse de la chair, que le monde ne vous apporte que ce qui peut correspondre aux convoitises de la chair, aux convoitises des yeux, à l'orgueil de la vie. Si vous avez dû faire cette expérience, avant vous étiez dans le monde, oui, vous voyez le monde, mais au fond, vous ne réalisiez pas cet attrait, cette puissance du monde. Et peut-être que dans la dernière retraite, vous avez été en quelque sorte réveillé à ces choses, et que dans le monde, vous n'avez jamais senti autant que ces derniers mois cette influence du monde. Avant, vous la subissiez, hein. Mais ça ne vous arrêtait pas. Tandis que maintenant, ça vous a arrêté, hein. Et vous avez souffert. Pourquoi? Parce que Dieu fait son œuvre profonde en vous. Parce qu'il veut vous amener plus loin. Mais il faut d'abord constater la maladie pour pouvoir prendre le vrai remède. Et arriver à la guérison. Et c'est cela que je voulais vous dire à vous qui avez peut-être beaucoup espéré sur la retraite précédente et qui n'avez pas réalisé tout ce que vous désiriez. Eh bien, ne vous découragez pas. C'est la preuve que l'enseignement que nous vous avons donné était vrai, mais que vous avez expérimenté vous-même la puissance du péché, la réalité du péché dans notre chair, que ce n'est pas notre conversion qui a amélioré notre chair, que la chair demeure la chair et qu'il nous faut autre chose. alors vous êtes préparé pour recevoir le message de cette retraite. Parce que vous avez expérimenté ce que Jérémie dit. Le cœur de l'homme est incurable. Est-ce
que vous êtes convaincu de ça?
Hein? Désespérément malin qu'il connaît. Moi, l'Éternel, je le connais. Puis on est allé voir ce que Jésus disait du cœur. Hein? Pourquoi il ne se fiait pas à cette multitude de conversions? Vous savez, je me réjouis que l'Évangile soit annoncé au Québec, qu'il y ait Billy Graham qui vienne pour faire des grandes réunions. Mais quand je pense à cette multitude de gens qu'on a dit convertis et qui sont retournés comme des pourceaux à leur bourbier, eh bien, ça vous fait mal. Et vous comprenez bien ce que Jésus disait, que lui n'était pas un manipulateur de foule et qu'il ne se fiait pas à ceux qui disaient croire en lui. Nous avons étudié ce verset l'autre jour. Parce qu'il veut que l'œuvre soit une œuvre réelle, une œuvre profonde. Et même si on est réveillé en entendant la lecture de la loi et qu'on se dit, bien voilà, maintenant je sais ce que c'est que le bien, le mal, et j'ai le désir de faire le bien. Est-ce que vous y êtes arrivé? Voilà que vous avez vu la faiblesse de la chair. Vous aviez ce désir, mais maintenant, vous avez expérimenté que la chair était faible. Si un homme était sûr de confesser le Seigneur, c'était l'apôtre Pierre. Hein. Et il a dit quand même, tous te renieraient, moi je ne te renierai pas. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Le jour même, dans les 12 heures, après avoir dit une telle parole, avant que le coq ait chanté, il l'avait renié 3 fois. Voilà, il ne se connaissait pas. Et voyez-vous, il faut que nous fassions certaines expériences douloureuses pour apprendre à nous connaître afin de nous quitter nous-mêmes et de cesser de vouloir nous améliorer. Et j'espère bien que vous n'êtes pas venu ici dans l'espoir de vous améliorer. Mais que vous êtes venu ici avec l'intention de vous abandonner à celui qui peut seul nous transformer et nous donner une vie nouvelle. Et voyez-vous, je peux vous le dire ce soir, si j'ai choisi ce thème, c'est justement parce que j'ai beaucoup souffert en voyageant à travers le monde, au contact de beaucoup de chrétiens, de voir que bien souvent les chrétiens sont des gens malheureux. Et qu'au fond, leur conversion, leur décision, ben oui, c'est allé un moment, ils avaient la joie du salut, le premier amour, comme on dit. Puis après, ça s'est tassé. Puis après, ils sont devenus malheureux. Ils ont mauvaise conscience. Ça n'a pas donné ce qu'ils espéraient. Oh, ils n'ont pas tout renié. Mais au fond, ils n'ont plus ce dynamisme des premiers temps. Les chrétiens sont des gens malheureux, alors qu'ils devraient connaître ce que j'appelle les trois bonheurs. Qu'est-ce que c'est que les trois bonheurs? Le premier bonheur, psaume 32. Bienheureux l'homme dont les iniquités sont remises, sont pardonnées. Hein. Ça, c'est le premier bonheur. Hein. Le bonheur au début de la vie chrétienne, quand on se sait pardonner de tous nos péchés. Hein. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Ce bonheur-là, le bonheur que nous donne l'assurance du pardon de nos péchés. Et que nous n'avons plus besoin de revenir, de ressasser toujours cette question du péché. Elle a été réglée. Le Seigneur a pris nos péchés et les a portés sur la croix. Il est mort couvert de nos péchés. Et aux yeux de Dieu, nos péchés ne sont plus. C'est ça que nous devons croire. Mais vous dites, mais non, mais moi je les vois. T'as pas besoin de te regarder. Pourquoi est-ce que vous continuez à vous regarder? Alors, tant que vous vous regardez, bien, vous verrez le péché. Vous verrez quelque chose que Dieu ne voit plus. Où a-t-il vu vos péchés? À la croix. Et comment ont-ils disparu? Dans l'ensevelissement du Christ. Qui est mort, non pas pour ses péchés, il était saint, mais qui est mort pour nos péchés. Et nos péchés ont été ensevelis dans la tombe. Il est dit que Dieu les a jetés derrière son dos. Alors, Dieu ne voit plus nos péchés. Il les a vus sur le Christ. Et c'est ça qui fait que nous aimons le Christ, quand nous pensons qu'il nous a aimés au point de prendre toutes nos iniquités, toutes nos turpitudes, toutes les pensées mauvaises que je puis avoir tant que je suis dans ce corps de chair. Il a pris tout cela comme si c'était lui qui les avait pensées et il est mort avec cela. De sorte que Dieu maintenant ne voit plus mes péchés et il ne veut plus que je les voie. Il veut me déculpabiliser. Quelqu'un est mort pour mes péchés. L'expiation de mes péchés ont été faites, la loi qui me condamnait à mort a été satisfaite. On ne réclame plus rien sur quelqu'un qui a été exécuté. Hein. Justice est faite. Et bien voilà ce que Jésus a fait pour moi. Alors tout à coup, mais c'est une révélation qui nous est donné. Qui est ce Jésus? Comment nous allons le voir demain? Comment devrait-on connaître Jésus quand nous savons ce qu'il a fait pour nous? Combien il devrait nous être cher? C'est pas une doctrine, la vie chrétienne. C'est une personne. Le salut, ce n'est pas la compréhension de certaines doctrines. Le salut, c'est quelqu'un qui vous habite, qui entre dans votre vie et qui prend toute la place, qui vous conduit. Jésus n'est pas mort pour nos péchés, pour que nous n'allions pas en enfer. Ce serait que cela, le salut. Le si grand salut de Dieu, ce serait de vous éviter d'aller en enfer. Oh, je suis sauvé. Sauvé de quoi? Le salut, c'est tout autre chose. Le salut, c'est quelqu'un. Alors, vous voyez, on n'a pas le premier bonheur. Tout d'un coup, voilà, on se dit, mais je pêche encore, je me décourage, je me confesse. Puis je reçois l'absolution, puis je me reconfesse. Puis ça continue. Puis celui à qui je me confesse, ben, il se confesse à un autre, lui aussi, parce qu'il est pécheur. Puis ça finit pas, même le pape se confesse. Il a son confesseur. Vous trouvez la délivrance, mais c'est quelque chose qui doit nous pousser à chercher. Alors le salut initial, ça ne nous donne plus vraiment du bonheur. On peut même exposer le plan du salut aux autres, mais on n'est pas heureux. Puis on se dit, s'il y croit, qu'est-ce que ça va donner? Et alors, le deuxième bonheur, c'est le salut dans la marche. Être heureux en marchant, dans la vie quotidienne. Vivre le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie. Hein. C'est ça le bonheur chrétien. Le bonheur dans la marche. Psaume 23.
Puis le troisième bonheur, qu'est-ce que c'est?
Face à la mort, vous serez heureux.
Sans mourir. Sans mourir. Et on vit son enterrement. Sans mourir.
Mais la mort, ça devrait vous réjouir même.
Pourquoi est-ce que les gens se suicident? Ils espèrent qu'il y a quelque chose de l'autre côté.
Ils veulent quitter, eux. Ils ont tout connu, mais mal connu.
Puis ils ne finissent pas même leur existence terrestre. Vous savez, je me suis dit en venant à vous, j'ai pensé que je devenais vieux. Parce que je me suis dit, le plus grand psalmiste d'Israël, ben, il y a déjà 2 ans, il était mort. Moi, j'ai 2 ans plus que David à sa mort. David était déjà mort, puis moi, je vis encore. David qui a fait les plus beaux psaumes, puis moi, je suis encore vivant. Qu'est-ce que j'ai à dire? Puis j'ai pensé, l'homme le plus sage, comment s'appelait-il? Salomon. J'ai 12 ans de plus que lui, de vie. Rendez-vous compte. À 60 ans, Salomon était mort. Alors, combien nous voudrions que la prière de Moïse s'accomplisse. Apprends-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que nous acquérions la sagesse. Je suis tenté de dire quelque chose, mais je sais que je me ferai gronder. J'ai entendu une femme qui est médecin. Qui la semaine dernière a été appelée par ses collègues qui fêtaient avec elle leur 40e anniversaire de graduation. On a demandé à cette femme d'ouvrir la séance par la prière. Et il y avait beaucoup de juifs parmi ces médecins. Et elle a été inspirée, même si je ne suis pas un bilin, hélas, 3 fois hélas, disait De Gaulle. Mais j'ai quand même compris ce qu'elle a dit. Elle a été inspirée pour remercier ce que Dieu avait fait dans le passé. Beaucoup étaient morts. De ce qu'il était dans le présent. Puis elle a cité la prière de Moïse au sujet de ce qu'il leur restait à vivre. Et vous savez, ça a passé. J'ai senti, parce qu'on le sent dans une grande assemblée, si ces paroles passent, eh bien ça a passé. C'était un témoignage. Apprends-nous à bien compter nos jours. Disait Moïse. Alors, évidemment, les Juifs, Moïse, c'est quand même Moïse pour eux. Alors, on peut avoir, citer Moïse, avoir ce témoignage. Eh bien, je demande au Seigneur que cette prière que j'ai entendue puisse aussi être exaucée ici. Alors, nous sommes maintenant préparés, même quand nous pensons à la mort. Qu'est-ce que disait Paul? Si je dois mourir, quelle catastrophe! C'est un gain. Et vous savez, j'ai assisté beaucoup de mourants et j'ai vu des gens mourir dans une joie pleine et entière.
J'étais en Italie ces derniers mois pour les camps, en août, et on me disait, mon ami qui était décédé, il a dit tout d'un coup à sa femme, « Je le vois. » Et son visage rayonnait, malgré toute sa souffrance. C'était le bonheur pour aller là, vers lui. De sorte que on ne demande pas la mort. Si je dois vivre, il en vaut la peine. Mais si ça devait arriver, être auprès du Christ, c'est de beaucoup de meilleur. Le brigand l'a entendu. En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors, ce que j'ai demandé au Seigneur, c'est que nous ayons vraiment une base biblique pour nos entretiens. Et dans la prière, j'ai pensé que dès demain, nous allons avoir comme toile de fond pour vous apporter ce message caché avec le Christ en Dieu, l'épître de Paul aux Colossiens. Nous arrêtons ici notre introduction et je passe maintenant à quelques questions avant de vous relire le programme et de faire les présentations d'une certaine manière que vous allez bien comprendre. J'aime à vous saluer dans le nom du Seigneur en espérant que vous avez passé dans ce lieu une nuit de repos dans la paix de notre Dieu, cette paix qui surpasse toute connaissance. Vous aurez remarqué que j'ai laissé le texte de bienvenue ce matin, ça s'est imposé à moi que je ne devais pas l'effacer pour mettre le texte suivant, mais que nous devions garder cette parole. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, parce que c'est vraiment le secret d'une vie heureuse et bénie. Et si réellement notre cœur se trouvait là où est notre trésor, notre existence entière serait transformée. Vous savez, il n'y a pas besoin de longues méditations pour partir dès le matin avec la force du Seigneur. Quand je me tenais devant lui pour lui demander quelle serait la parole qu'il voudrait nous donner ce matin, cette parole qui s'est imposée à moi, c'est celle-ci. La force et la joie sont dans sa demeure. Une autre version dit dans le lieu où il habite. Alors si votre cœur se trouve là où est votre trésor et que votre trésor soit réellement une personne, Jésus-Christ, chaque matin, vous aurez sa force. C'est dans le livre des Chroniques, au chapitre 16, le premier livre des Chroniques, qu'il est dit cette parole, au verset 27e, c'est la fin du verset 27e. La majesté et la splendeur sont devant sa face. Ah, mes amis, quand on peut le voir dès le matin, eh bien, la vision que l'on a, c'est une vision majestueuse. majestueux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. Et on ne peut pas regarder cette face du Seigneur sans refléter aussi dès le matin quelque chose de sa majesté et de sa splendeur. Commencez une journée avec cette vision de la majesté du Seigneur. C'est lui qui marche devant nous, alors il va frayer le chemin. Et puis, quand on a vu la splendeur de sa face, mais c'est une réalité, c'est un fait. Il nous est dit que toutes les perfections invisibles de Dieu ont resplendi sur quel visage? Sur la face du Christ. Hein? Les perfections invisibles de Dieu ont été manifestées sur la face du Christ. Alors si nous contemplons dès le matin le Seigneur, si nous avons quelques instants pour penser à lui, avant d'entrer dans toutes nos occupations, nos préoccupations, on lui dit, Seigneur, tu vois, je suis sans force. Mais la force se trouve là où il demeure. Alors nous avons un contact direct avec le Seigneur. Et il est dit dans un autre passage que la joie du Seigneur devient notre force. Quand on a vu la splendeur de sa face, on se sent pénétré de joie. Malgré les circonstances, malgré les difficultés, commencez votre journée avec joie. Et croyez-le, personne ne doit vous ôter votre joie. Aucune circonstance ne peut vous ôter votre joie. Ça, c'est un fait. Le Seigneur nous le dit. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire devant ces paroles? Les croire. Il nous faut commencer nos journées dans la foi. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend, comme nous aurons l'occasion de souligner, par la parole de Dieu. Alors, j'entends cette parole. Je n'ai pas besoin d'un long chapitre, j'ai besoin de quelques versets peut-être, ou un verset. Il est dit dans un chapitre d'Ésaïe que j'aime beaucoup, chapitre 50, verset 4, qu'il peut, par une parole, soutenir celui qui est las, celui qui est fatigué. Et peut-être que dans la journée, dans le chemin, eh bien tout à coup, vous allez faire cette expérience. Il y a des moments de fatigue extrême. Il y a des moments où il semble que nous n'en pouvons plus et que nous allons tomber. Et on pense au Seigneur. Là où il habite, là où il demeure, où demeure-t-il? Dans le sein de son Père. Et tout à coup, on éprouve que notre force, elle se renouvelle pendant la marche, comme il l'a dit au psaume 84. Mais il faut en faire l'expérience. C'est pas courir dans un lieu pour se mettre en prière. C'est être une prière soi-même. Là où nous sommes. Vous avez une pensée qui monte vers le Seigneur. C'est ça une prière. Prier, c'est pas réciter des mots. C'est pas faire un effort intellectuel pour parler à Dieu, c'est respirer. C'est ça, prier. Vous avez même un soupir. Mais un soupir qui monte à Dieu. Oh, que Dieu vous donne de pouvoir éprouver dès aujourd'hui, dès ces premiers moments, que vraiment la force et la joie sont dans sa demeure. Et que quand on a été dans sa demeure, on est comme Moïse. Moïse, quand il redescendait de la montagne, son visage,
rayonner. Commencer la journée avec un visage rayonnant. Au lieu de dire qu'on se lève du pied gauche. Je ne sais pas si ça se dit au Québec, mais... N'est-ce pas? Eh bien non, on va commencer avec un visage rayonnant. Alors les relations entre mari et femme sont déjà différentes. Avec nos enfants, il y aura aussi quelque chose de différent, au lieu de dire « Ah, encore une journée, et ces enfants qui sont tannants, etc. » tout ça. C'est pas comme ça qu'il faut commencer. C'est pas majestueux, ce commencement de la journée. Si vous avez vu la majesté du Seigneur, la majesté et la splendeur sont devant lui. Alors on était devant lui aussi, et on reflète comme Moïse quelque chose de lui-même. Mais lui-même ne le savait pas. Et c'est ça que je trouve merveilleux. Il ne savait pas que son visage rayonnait. Mais ceux qui le voyaient contemplaient cela. Et bien que nous puissions être les uns pour les autres des réconforts aujourd'hui. C'est ce que nous demandons à Dieu de tout notre cœur. Dieu notre Père, nous voulons te bénir parce que nous croyons que dans ces heures, tu veux faire un travail profond en chacun de nous. Tu veux toucher nos cœurs et tu veux aussi parler à nos consciences. Tu veux nous rappeler des faits que nous allons croire éperdument. Indépendamment de nos circonstances, nous allons croire ce que toi tu nous dis pour en faire l'expérience, pour avoir aussi ce sentiment que c'est vrai. C'est la grâce que nous te demandons pour chacun de nous en te bénissant en Jésus. Amen. Mes amis,